Tout le monde a été bien accueilli en Égypte, les Arméniens, les Turcs, les Grecs, les Italiens, tout le monde, les Français qui vivaient en Égypte. Je ne dirais même pas que les Juifs ont été accueillis parce que la question juive ici est différente. Les Juifs étaient Égyptiens. Et ça, c'est un sujet vraiment qui a été mal présenté pour des raisons que j'essaye de comprendre. C'est que les Juifs, les Égyptiens, étaient Égyptiens qui étaient Juifs, et pas le contraire. Et quand on lit l'histoire, c'est impressionnant le rôle de pas mal de Juifs qui étaient artistes, qui étaient musiciens, compositeurs, qui étaient actrices et acteurs, et qui ont aidé à construire l'économie égyptienne indépendante des Anglais. Il y avait pas mal de communistes égyptiens qui étaient juifs, qui faisaient le combat pour la libération des Égyptiens. Alors, cette histoire a été toujours mal présentée. Et je pense que la culture de l'Égypte des années 40 présente beaucoup plus vraiment l'identité égyptienne que les sociétés qui existaient après ça.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Auteur de l'immeuble Yacoubian, homme cultivé issu de la bourgeoisie égyptienne, Alaa al-Aswani ne peut qu'être nostalgique de ce temps mythique d'avant-guerre où les langues, les religions, les nationalités se côtoyaient en paix sur les rives du Nil. Sur ce temps-là, disparu entre 1948 et 1956, Laurence Durel a écrit son célèbre Quatuor d'Alexandrie et plus récemment Bénisifer, nous les Levantins. Ils décrivent tous deux des cafés où se réunissent unissaient poètes, philosophes, écrivains, des cabarets dans lesquels des femmes chantaient et dansaient et une communauté juive tellement bien intégrée que nombre de ces jeunes hommes s'investissaient dans les luttes pour l'émancipation du peuple égyptien. Cela a bel et bien existé, mais tout était-il vraiment si parfait ? Le graphiste Jérémy Dress est parti au Caire et à Alexandrie sur les traces de grands-parents obligés de s'exiler après la naissance de l'État d'Israël, les Juifs étant devenus des ennemis officiels des États arabes. Une histoire dont il ne connaissait que des bribes, le père de sa mère ayant toujours refusé de revenir sur un passé qu'il ne voulait plus remuer. Après « Nous n'irons pas voir Auschwitz » paru en 2011 et « Dispersé dans Babylone » en 2014, Jérémy Dress poursuit son enquête sur des histoires du temps passé dont il a compris avoir besoin pour transmettre son histoire familiale à Anouk, sa fille. « Si je t'oublie, Alexandrie », sa toute dernière BD, est éditée chez Stenkis. Bonsoir Jérémy Dress.
Bonsoir Kathleen Evin.
On dirait bien que vos BD, c'est-à-dire aujourd'hui il y en a trois, sont construites autour de silence, sont construites avec le but, le désir de combler ce silence pour construire une histoire dans laquelle vous pouvez vous intégrer.
Effectivement, et je dois dire aussi que le témoignage de Alaa al-Aswani m'a particulièrement... plus que je le connaissais pas du tout, donc j'étais très ému de l'entendre sur l'identité égyptienne qu'il considérait être comme l'identité des années 40. Moi j'ai l'impression, et comme ce que vous disiez en fait, que j'écris en fait pour transmettre à Anouk, à mes enfants et qui transmettront ensuite, parce que c'est comme je dirais une sorte de vide, c'est-à-dire que en fait c'est mes grands-parents qui venaient de l'ailleurs. Mes grands-parents paternels de Pologne, voilà une histoire que j'ai explorée dans « Nous n'irons pas voir Auschwitz ». Et ici, dans ce nouveau livre, c'est mes grands-parents maternels, donc ils venaient d'Égypte. Et en fait, à chaque fois, quand ils sont arrivés, ils se sont, on va dire, collés au modèle républicain. Mais mes parents, justement, ont grandi dans des écoles publiques, etc. Ils ont voulu qu'on ait exactement le même modèle. Et en fait, j'ai l'impression que si je raconte pas tout ça, à un moment donné, ça va juste se perdre d'une génération à une autre.
Mais il y a une différence dans ces deux histoires. l'histoire des grands-parents, Jérémy Dress. Du côté de la Pologne, il y avait une transmission très claire. C'était des antisémites. On a souffert, on oublie tout ça et on n'y va plus et c'est fini. Du côté de vos grands-parents maternels, c'était pire que ça. C'était comme une blessure. Il y a eu une sorte de paradis perdu, c'est un peu ce que votre mère ressentait. Ce pays où on vivait tous en bonne entente, où il faisait beau, où on était chez nous. Et puis il y a eu cette blessure, et du côté notamment de votre grand-père, il disait « il n'est pas question de remuer toutes ces vieilleries ».
Oui, c'est vrai. Bah, ma grand-mère me racontait beaucoup toutes ces histoires de jeunesse à Varsovie, la Varsovie juive des années 30, etc. Et c'était quand même des souvenirs assez joyeux, en fait. Et il y avait absolument rien de l'autre côté, en fait. Et je pense que quand mon grand-père parle de vieillerie, bah, j'ai tendance à penser qu'il le croit vraiment, en fait. Et donc, je trouve que c'est pire, effectivement, plutôt que de dire, voilà, tous les Polonais sont antisémites, comme ma grand-mère ou mon père pouvaient aussi le dire. Ne rien dire comme ça et faire comme si tout se passait, ben, il fallait en faire table rase, il avait jamais existé. C'est vrai que je trouve, de certaine manière, que c'est pire et c'est vrai que c'est aussi ce qui nous a donné envie d'aller voir.
Alors, vous racontez, après la mort, donc, de votre grand-mère et le départ dans une maison de retraite de votre grand-père, vous racontez cet appartement vide et on vous voit, vous vous dessinez en train de fouiller dans des cartons, de trouver des papiers, de trouver des photos. Et à partir de là, vous avez décidé d'aller sur le terrain, de faire une véritable enquête et de remonter l'histoire de ces grands-parents qui ont été expulsés en 1948 et au moment de la création de l'État d'Israël, alors qu'ils avaient déjà subi eux-mêmes dans leur famille des départs, des exils. Et là, c'est un exil parce qu'ils sont juifs.
Bah, je dirais que c'est pas si clair, en fait, parce que, en tout cas, on les expulse pas en tant que juifs. Et c'est aussi intéressant pour la situation en Égypte, parce que, en 48, on va expulser des juifs parce que c'est des opposants politiques, comme a pu l'être mon grand-père qui était très communiste. Donc lui, il est très communiste, il fait un an et demi dans un camp d'internement, où il côtoie des frères musulmans, des wafdistes, etc. Et après, en 56, on va expulser des juifs, mais sans jamais dire qu'ils sont juifs, même si, bon, ça paraît être aussi la cause, parce que en fait, ils sont étrangers. Parce qu'il s'avérait que dans cette communauté-là d'Égypte, il y avait énormément d'apatrides. Mais voilà, ça en fait une histoire un peu obscure. 48-58, c'est une sorte un peu d'écran de fumée. Après, eh bien, il y a 67 qui ciblent cette fois vraiment les juifs, mais là, il y en a plus beaucoup. Ça a à voir effectivement avec la guerre de 6 jours en Israël. Et là, voilà, les traitements sont encore pires que ceux que avaient pu subir les juifs en 48 ou en 56.
Ah, effectivement, cette communauté juive d'Égypte, elle a disparu au fil des ans et des guerres avec Israël. Ceux qui sont restés étaient des Égyptiens, comme dit Alaa Al-Waswani, c'était des Égyptiens qui en plus étaient juifs, et la plupart de ceux qui sont restés étaient en fait très impliqués politiquement dans la construction de l'Égypte. Ils étaient souvent communistes, comme votre grand-père. On va écouter le témoignage de Sheata Haroun. Vous avez rencontré sa fille quand vous êtes allé sur place, Jérémy Dress. Et lui, c'était en 1993, il était au micro de Paula Jacques, qui partait elle aussi sur les traces de sa famille.
Une partie était intégrée, mais la grosse majorité ne l'était pas. C'est-à-dire, moi j'ai fait mes études chez les pères chrétiens, c'est parce que c'était une bonne école. L'arabe, pour moi, j'ai dû l'apprendre. J'ai dû le travailler, vous comprenez.
Mais vous l'avez aimé. Pour vous, c'était une histoire d'amour avec cette langue et avec ce pays.
C'est plutôt l'amour des gens de ce pays. Je les trouve formidables. Mais j'ai été formé différemment. Parce que j'ai été formé dans une minorité et qui plus se trouvait du côté européen que du côté égyptien. Étant devenu de gauche, j'avais épousé la cause du peuple égyptien, d'une part. Deux, j'étais marié, j'avais 2 enfants. Je me suis dit, si je pars, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Mon père et ma mère, mon père, mon grand-père sont enterrés ici. J'espère que je serai toujours enterré ici. Et en fait, je n'aime pas beaucoup bouger.
Est-ce que vous pensez que si les Juifs étaient restés dans ce pays, ils auraient pu vivre ici?
Je crois que non.
Non?
Non. Mais je vais vous dire, à l'instar de toutes les colonies étrangères, le pays a évolué, les postes qu'ils occupaient nécessairement ont été occupés par les Égyptiens, donc économiquement, ils ne pouvaient plus continuer de vivre. Beaucoup qui avaient des Juifs, par exemple, qui avaient la nationalité étrangère, avaient été migrés. Oui.
Donc il n'y a plus d'avenir pour eux ici?
Non, je ne crois pas.
Jérémy Dress, on vient d'entendre donc la voix de Sheata Haroun, qui a été une grande figure communiste, égyptienne. Vous avez, vous, quand vous êtes parti sur place avec votre mère, dans le récit que vous avez dessiné dans ce livre, Si je t'oublie, Alexandrie, vous avez rencontré Magda Haroun, sa fille, qui, elle, est restée sur place et qui vit aussi dans le souvenir de la figure de son père, qui a été quelqu'un d'important dans la communauté juive, mais qui a été quelqu'un d'important pour les Égyptiens aussi.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je vous avoue, je connaissais pas du tout sa voix, donc je la découvre et c'est vrai qu'elle est assez proche de celle de sa fille, c'est étonnant. Et oui, en fait, Sheata Haroun était un homme politique vraiment important que beaucoup d'Égyptiens connaissaient. Et que même quand je suis allé sur le terrain, pour tout le monde, Sheata Haroun représente vraiment quelqu'un. Et c'est vrai que c'est étonnant de constater que sa fille, finalement, elle a vraiment suivi la même lignée, le même patriotisme pour l'Égypte. Bon, aussi, un côté assez, on va dire, très sceptique sur Israël aussi qui les caractérise. Mais voilà, en tout cas, un vrai patriotisme qu'on retrouve du père à la fille.
Mais ce qui est intéressant, et vous le notez bien dans les entretiens que vous avez eus là-bas, sur place, c'est qu'il y a ce sentiment qu'au fond, Sheata Haroun exprime, que le départ des Juifs faisait partie du mouvement de la décolonisation. Comme si ils n'étaient pas des autochtones. Il fallait faire partir les gens qui occupaient des postes et pour les donner aux Égyptiens. C'est un peu ce que dit Sheata Haroun. Il dit que ça faisait partie du mouvement inévitable de la décolonisation.
Effectivement, la décolonisation, c'est une des raisons qu'on met en avant et que je trouve assez juste sur le fait qu'il soit parti. Parfois, certains vont dire, bon, bah, c'est la création d'Israël. Bon, c'est vrai qu'ils disent la création d'Israël à sa part, entre guillemets, de responsabilité dans leur départ. Bon, de l'autre côté, vous allez avoir des gens qui vont dire plutôt que c'est l'islam, pas l'islam intolérant, mais des extrémistes islamiques qui ont poussé en fait vers le départ comme avaient pu être les frères musulmans jusqu'à aujourd'hui. Bref, il y a un peu ce type de thèse, parfois je trouve un peu trop exagérée, qu'on peut retrouver dans cette inexplication de ce départ, parce que voilà, il y avait une vraie communauté, et maintenant il y a plus rien. Et il y a quand même une vraie incompréhension de se dire comment ça se fait qu'il n'y a quasiment plus personne.
Et surtout, Jérémy Dress, il y a parmi ceux que vous avez rencontrés, beaucoup de gens ne comprennent pas. Enfin, la création de l'État d'Israël était une chose, mais eux, ils étaient égyptiens, ils se considéraient comme égyptiens, ils n'avaient pas envie d'aller vivre en Israël pour beaucoup d'entre eux. Vos grands-parents, par exemple, n'ont pas eu envie d'y rester. Ils sont arrivés en France ensuite. On va donner la parole à Jacques Hassoun, qui lui aussi regrette énormément cette Égypte de son enfance. Il était interrogé en 1997 par Simone Dweck.
Ça a basculé au moment de la création de l'État d'Israël. Ça, c'est évident que ça a été à partir de 1946-1947, avec en plus cette chose absolument abominable qui existait en Égypte, c'est que le roi a refusé que les Juifs d'Égypte, c'est exemple unique dans le monde arabe, même en Syrie, même en Irak, ça n'a pas eu lieu, a refusé aux Juifs d'Égypte, les autochtones justement, d'avoir une nationalité égyptienne. Les autres qui sont venus de l'extérieur se sont naturalisés parce qu'ils avaient une idée de ce qu'était qu'une nationalité. Les Juifs autochtones, l'Abdelwahed ou l'Abdelmegid ou les autres, bon, ne pouvaient pas imaginer une seule seconde qu'un jour ils auraient à justifier leur nationalité. Puis un jour on leur dit, justifiez de votre nationalité, on reconnaît pas vos preuves, ramenez d'autres preuves, et on crée cette fiction juridique qui s'appelle le sujet local, hein, qui est une véritable foutaise, qui a créé 20 000 ou 30 000 apatrides, hein. Sujet local, c'est-à-dire sujet de l'ex-empire ottoman. Ils ne voulaient pas en faire des étrangers et en même temps, ils ne voulaient pas en faire des Égyptiens. Bon, et je crois que le roi Farouk était complètement responsable de ça. Bon, et il y a eu effectivement à partir de ce moment-là une montée du nationalisme bête. Et au-delà de ça, il y a eu cette série de guerres qui ont commencé et qui ont provoqué une véritable hémorragie dans le judaïsme égyptien qui n'était pas préparé à ça.
Alors, c'est intéressant, Jérémy Dress, parce que c'est vraiment ce problème, justement, des gens qui étaient expulsables parce qu'ils étaient apatrides, même si, au départ, eux ne considéraient pas que c'était un problème. Mais on l'entend, Jacques Hassoun, dire le judaïsme égyptien n'était pas préparé à ça. Vos grands-parents, vous le racontez, ils en sont un exemple. Ils sont expulsés, ils devraient aller aller en Israël. Et en fait, ils y passent et puis ils s'en vont parce que Israël ne leur convient pas. Est-ce que c'était une question politique ? Est-ce que c'était... Vous ne savez pas, au fond, vous n'avez jamais eu d'explication ?
En fait, voilà, c'est, enfin, je trouve que effectivement, Jacques Hassoun présente très très bien les choses. Je dirais même que c'est vraiment 40, le roi Farouk, mais 48 aussi, parce que c'est vraiment à partir de 47-48 que ça devient très difficile pour les Juifs d'obtenir une citoyenneté égyptienne. Oui, en fait, le problème de mes grands-parents, c'est qu'en effet, comme beaucoup de Juifs égyptiens, ils sont nés apatrides. Donc en fait, quand on, entre guillemets, on les a foutus dehors, donc après un an et demi d'internement pour mon grand-père, ben, ils avaient nulle part où aller. Mais en fait, mes grands-parents ont grandi au lycée français de Alexandrie, donc ils parlaient parfaitement français. Et je pense que depuis toujours, ils avaient ce modèle-là, la France, et le désir d'aller en France. Voilà, ils n'ont pas vraiment le choix, ils sont poussés à aller en Israël. Ils y vont, ils y restent quelques années. En plus de ça, mon grand-père, en fait, il est réformé, il peut pas faire l'armée. Et clairement, dans cet État qui vient d'être créé en conflit direct avec tous ses voisins, ne pas faire l'armée, c'était vraiment très compliqué d'avoir un peu un statut dans ce nouvel État. Donc ça plus ça fait que dès qu'ils commencent à obtenir un peu plus d'argent dans leur métier respectif, ils partent en France. Et je trouve que ce qui correspond bien à cette idée du rêve républicain qu'ils pouvaient avoir, c'est que en arrivant en France, ils ont ma mère, et ma mère, ils l'appellent Marianne. Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a false star tries its best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
Sur France Inter.
L'identité d'Alexandrie, c'est une identité authentiquement égyptienne. On peut, en comparant, se dire oui, c'était plus beau, c'était plus propre, etc. Mais bon, l'Alexandrie de Durel, la belle époque, les années 30-40, ça c'était, à mon avis, une espèce de comédie européenne. C'était pas l'Égypte.
L'Alexandrie égyptienne, c'est peut-être le nombre d'hommes voilés dans la rue, c'est peut-être les enseignes des magasins qui sont écrites en arabe, c'est peut-être la voix du muezzin, qui est parfois très agréable, mais qui est parfois trop bruyante. Je suis musulmane et je le dis haut et fort. J'ai utilisé comédie européenne, je ne veux pas dire par là que c'était une caricature, non, ce n'est pas vrai. Mais c'était trop de croyances en cette culture différente au détriment de la nôtre. Quand je pense à différence de culture, je pense aussi à l'ajout de la religion, hein, qui est important, parce que bon, la religion, c'est pas seulement le sentiment religieux, ça s'accompagne de traditions, de coutumes, de choses que j'estime que la société occidentale a complètement balayé.
Jérémy Dress, j'ai voulu vous faire écouter la voix de cette jeune femme qui s'appelle Nazli Farid, bibliothécaire au Centre culturel français d'Alexandrie. Enfin, elle l'était en tout cas en 97 quand Simone Dweck l'a interrogée. Parce que, au fond, c'est un petit peu le sentiment, ce qu'elle exprime, qu'on ressent à la fin de votre séjour à Alexandrie avec votre mère. Vous y étiez en octobre 2016, justement à chercher les traces de ce passé mythique à la Laurence Durrel, comme elle le dit. Et en fait, on a l'impression que beaucoup d'années ont passé pour effacer ces traces et que si vous avez discerné une sorte de nostalgie chez les jeunes de ce passé mythique, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont lu des livres et qu'ils se disent à l'époque c'était bien. Mais vous n'avez pas trouvé beaucoup de traces de ce passé-là. Celui où, soi-disant, tout le monde vivait en bonne intelligence en Égypte, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture.
Effectivement, enfin, après, Alexandrie, c'est comme toutes ces villes très, très, très anciennes où on a plein de différentes strates comme ça. Ben, on le ressent quand même fortement à Alexandrie, même si, effectivement, beaucoup de femmes voilées, d'ailleurs beaucoup plus qu'au Caire, j'ai trouvé, les anciennes qui sont plus en arabe. Mais malgré tout, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même visible parce qu'il y a aussi énormément d'enseignes du temps jadis, on va dire, où elles sont conservées. Et puis les architectures d'avant sont conservées. La pâtisserie où allait ma grand-mère au Délice, bah, elle est toujours là. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette jeune génération. Je dirais c'est un peu, pour moi, considérerait être la génération un peu tarir comme ça, qui a été un petit peu plus loin que juste le discours officiel pour l'exemple des Juifs concernant les Juifs sur le fait que voilà c'était un corps étranger de la société égyptienne, etc., et qui est venu interroger les tabous de cette société là notamment Amir Ramsès, qui est un jeune réalisateur copte, et son film justement c'est complètement ça, c'est-à-dire montrer que oui effectivement tous les Juifs n'étaient pas sionistes, qu'il y en avait qui avaient vraiment joué un rôle important dans l'histoire du pays. Cette jeunesse-là, je la croise un peu à Alexandrie lors d'une sorte de rencontre à l'Institut suédois, et je vois que il y a plein de paradoxes qu'on retrouve aussi dans votre archive, où d'un côté on va dire c'était très cosmopolite, mais c'était pas notre choix, c'était des Européens qui venaient faire du commerce, c'est eux qui avaient le commerce, pas nous. Donc c'était une sorte de cosmopolisme imposé, et maintenant ils sont dans une société qui est beaucoup plus homogène, mais comme toutes les sociétés homogènes, il y a un côté quand même assez triste en fait.
Alors on vous voit, Jérémy Dress, vous vous dessinez avec votre mère, et en fait votre mère, elle est complètement bouleversée parce que d'abord vous cherchez les traces, vous cherchez les tombes, les cimetières ne sont pas très accessibles, les tombes ne sont pas entretenues. Donc il y a dans votre périple, quand vous le dessinez dans cette partie-là de votre livre, il y a des choses drôles et puis des choses très tristes, et il y a aussi une petite angoisse parce que au fond on vous a tellement répété aussi que les Juifs sont devenus les ennemis, que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que vous n'êtes peut-être pas à votre place là et qu'il risque d'y arriver quelque chose.
Cette angoisse, je pense que je l'ai eue au début du voyage. C'est-à-dire, déjà, je m'étais un peu renseigné pour savoir où je mettais les pieds. Et c'est vrai que ça reste quand même un contexte particulier, 2016, parce que c'est l'Égypte du général Sissi, quoi. Moi, personnellement, j'avais pas pris de visa journaliste parce que, voilà, c'était plus simple comme ça. Donc, je voyageais avec ma mère, entre guillemets, en tourisme. Mais en même temps, on menait pas mal d'entretiens au Caire.
Les photos étaient interdites. Dès que vous sortiez un appareil photo, on vous tombait dessus.
Clairement. Alors, au Caire, c'était un petit peu plus cool, entre guillemets. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé à Alexandrie, c'est devenu plus compliqué. Et en fait, les premières fois où on nous a interdit les photos, c'était vraiment à Alexandrie. Et moi, j'ai été très, très frustré, notamment dans les cimetières d'Alexandrie, parce que pour moi, c'était une partie qui devait être très importante pour mon enquête, pour mon livre. Et en fait, moi, ma manière de fonctionner sur place, elle est très journalistique. C'est-à-dire, je prends énormément de photos, j'utilise un dictaphone, j'enregistre les gens que je rencontre. Et d'un coup, j'arrive dans ce cimetière, on me dit non, pas de photo, voilà. Bon, ben du coup, c'est une grosse frustration. Et puis aucune aide, bien sûr, pour essayer de trouver les tombes, par exemple des parents de mon grand-père, etc. Donc c'était vraiment un territoire un peu hostile. Et le pas de photo, ça pouvait être aussi pour des choses complètement anodines, un tramway où on nous dit non, interdiction. Pourquoi ? Quel est le problème ? Donc les gens étaient très suspicieux, en fait. Dès qu'on a un appareil photo, on paraît pas vraiment comme un touriste, mais plutôt comme un espion. C'est très étrange. Donc moi, j'ai vraiment vécu le voyage un peu sous tension, avec toujours cette peur de me dire, bon, si à un moment donné, ils regardent mon ordinateur, ils vont trouver tout mon matériel, mes enregistrements sonores, mes photos, etc. Ils vont se demander qu'est-ce que j'ai cherché à faire là-bas.
Alors, il y a un moment très émouvant dans votre voyage, et vous le dessinez, c'est lorsque vous rendez dans la vieille synagogue d'Alexandrie, la plus grande. On va écouter la voix de Joe Harari avec Lina Matatia. C'était en 1997, toujours au micro de Simone Dweck.
Joe Harari, merci de nous accueillir dans la synagogue d'Alexandrie. C'est une très belle synagogue.
La meilleure, elle s'appelle cette synagogue Eliyahu HaNavi.
Elle est grande, la synagogue. On peut être combien ?
La synagogue de tout le Moyen-Orient. Même le Caire, c'est plus petit. Ça, c'est de fabrication italienne. Abzini Sawaro.
Vous avez tous les bancs avec, avec des noms.
J'ai mon nom ici.
Joe Harari.
Ouais.
Avec le Talet.
Il y a six chaises ici. Toute la famille de Lina Matatia. On a tous les chaises avec leur nom. Le temps qu'il y avait beaucoup de juifs.
Il y en avait combien ?
50 000, 60 000.
Il est resté 50 personnes. Oui,
ils sont
50.
Partis dans le monde entier.
Il n'y a que vous, en fait, ici.
Madame Matatia et Joe Harari.
C'est triste. C'est une communauté qui se meurt.
On le fera un très joli musée.
Probablement, lorsque le dernier juif sera mort, le dernier de ceux qui restent, ça deviendra un musée.
En 1997, il restait 50 personnes dans la communauté juive. Vous, en 2016, quand vous y êtes allé, Jérémy Dresse, il en restait 6. Donc effectivement, ça a un côté très muséal, enfin ce qu'expliquait Lina Matatia. Il y aura le musée qui dira, voilà, il y a eu autrefois des Juifs ici.
S'il y a un musée déjà, ça sera déjà pas mal. Et moi j'aime bien cette archive aussi parce que j'avais vu effectivement un documentaire dans les années 90 sur les Juifs d'Alexandrie où justement Joe Harari était vraiment le personnage du documentaire qui avait l'air d'être une personne très joviale, très 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 sympathique. Et finalement dans ce documentaire je trouvais qu'il y avait une certaine chaleur que je n'ai pas du tout retrouvée en allant justement sur place dans cette synagogue où le nouveau responsable de la communauté juive, monsieur Garon, Joseph Garon, il était plutôt ennuyé de nous voir, on va dire, parce que il préfère qu'on lui foute la paix, quoi. Tout simplement qu'on n'aille pas l'enquiquiner en lui demandant d'aller visiter la synagogue ou les cimetières ou tout ça. On a l'impression tout le temps que qu'il est plus ou moins contrôlé par les services secrets. Enfin, ça a l'air assez complexe. On ne sait pas quelle mauvaise volonté il met là-dedans et à quel point en fait sa marge de manœuvre est réduite. Ça fait que, effectivement, je pense que plus personne ne va visiter cette synagogue, que nous, on a beaucoup insisté, on a réussi à y aller. c'est un lieu complètement vide. Je trouve que dans ce documentaire-là des années 90, on sentait encore un peu de chaleur.
En tout cas, ensuite, il y a vos dessins dans vos promenades à Alexandrie, où malgré tout, dans cette ville, il y a tout et le contraire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les traces du passé, pas seulement de la présence juive, mais de la présence italienne, grecque, française, anglaise. Elles sont là. Il y a aussi des traces d'antisémitisme. Vous dessinez un bateau qui porte le nom de Heil Hitler, ce qui est quand même pas rien non plus. Et il y a dans cette ville des strates, et ça se voit dans vos dessins. Il y a à la fois une tentation de la modernité et en même temps ce passé qui revient, et peut-être dans la façon de parler aussi des gens sur le bord de mer.
Ouais, c'est pour ça que c'est une ville qui marque, et personnellement, si j'ai l'occasion, je serais très intéressé d'y retourner. C'est parce qu'on sent que c'est pas en 2-3 jours qu'on va vraiment réussir à l'explorer, cette ville, et qu'il faut y rester un certain temps, effectivement, se balader au bord de mer et puis dans certains quartiers. Et, on a eu de la chance finalement, parce qu'au début on était plutôt livré à nous-mêmes, et puis après, de contact en contact, on réussit en fait à faire un petit bout de la ville, en fait, avec un monsieur assez formidable qui connaissait complètement l'histoire sur le bout des doigts et qui était un Anglais. Donc c'était sous mandat britannique, en fait, l'Égypte jusque dans les années 40-50 avant que Nasser arrive. Donc lui, il était aussi de ce passé-là, et une jeune égyptienne de ma génération, et du coup on se retrouve à faire un peu un jeu de piste dans la ville, et c'était magnifique parce qu'on était un peu bercé par les paroles de ce monsieur. Il connaissait tous ces strates-là de Agatha Christie qui avait vécu dans cet hôtel-là, des débris de l'Alexandrie antique qui se trouve sous les eaux. Enfin, il avait cette faculté comme ça de nous amener dans le temps alors qu'on vivait l'instant présent de ce reportage.
Alors avant de se quitter, Jérémy Drey, petit détour par le marché aux poissons.
Bon. Nous trouvons ici au marché de poissons du quartier d'Anfouchi. C'est le plus grand marché de poissons d'Alexandrie. Il est reconnu pour avoir les poissons les plus frais. Et ce sont des pêcheurs qui vont souvent à la mer ouverte. Ils amènent leurs marchandises ici chaque matin à l'aube, vers 5 heures du matin. C'est là où on achète le meilleur poisson de la ville. Il y a tout genre de poissons, des mérous, des rougets, des mulets, même des tortues géantes que vous allez voir maintenant, des carettes. Que les Égyptiens de la région mangent, hein. C'est-à-dire c'est une délicatesse pour eux. Hein. La tortue, soupe de tortue, des brochettes de tortue. Ces pêcheurs-là, naturellement, ils sont très accueillants. C'est tout à fait le tempérament méditerranéen que vous allez voir. Certains d'entre eux parlent grec, hein. Plusieurs parlent grec, et certainement en italien. Hein. Ce sont les langues les plus répandues que les pêcheurs peuvent communiquer entre eux. Ils s'expriment souvent les noms des poissons en grec. Ils appellent les clients, ils les accueillent avec des alamlecs en arabe naturellement, et parfois en grec aussi, et souvent en italien. C'est les trois langues les plus répandues de la région.
Eh bien voilà, Jérémy Drey, un petit souvenir sonore d'Alexandrie, puisque dans votre livre, il y a à la fois de l'histoire et un carnet de voyage. Si je t'oublie, Alexandrie, c'est aux éditions Stenkis. Merci à vous d'être venu.
Merci Kathleen Levin, merci de m'avoir invité.
Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.